Il est 8h. La météo de ce vendredi 19 avril, c'est du soleil qui vient vous réveiller, mais c'est le froid qui va finir de vous réveiller parce que ça pique ce matin, ça pèle, ça caille, ça remet peut-être les écharpes, on va pas aller jusqu'aux gants et aux bonnets, mais il faut prévoir d'être bien couvert ce matin. Vous allez pouvoir enlever les couches dans l'après-midi parce qu'il va faire meilleur, 19 degrés attendus sur l'agglomération toulousaine et surtout le week-end s'annonce beau. Également, on fait un point complet dans un instant à la suite de ce journal. On salue tous ceux qui nous écoutent sur la route. L'avantage, c'est que sur la route, ça se passe bien. Les informations, c'est avec vous Mathieu Ferry, bonjour.
Bonjour Laure et bonjour à tous.
Et si le contrat de concession de la 69 était illégal?
C'est en tout cas ce que mettent en avant certains opposants à l'autoroute Toulouse-Castres, comme le collectif La Voie est libre. La cellule investigation de Radio France a pu consulter ce contrat. Et en plus de l'impact écologique, révélation ce matin, il y a aussi des questions financières et juridiques, Benoît Colomba.
Il y a d'abord la durée de la concession autoroutière qui pose question. 55 ans, incluant une période de 15 ans pour rassurer les investisseurs. Selon les juristes que nous avons consultés, cette clause de 15 ans supplémentaire pourrait potentiellement être illégale. Christophe Leguevac, l'avocat du collectif La Voie est libre opposé à l'A69, vient de saisir le Premier ministre pour la faire annuler avant éventuellement de se retourner vers le Conseil d'État. Il y a ensuite le fait que la société qui va exploiter l'autoroute Atosca a prévu d'installer des panneaux solaire le long du trajet, sauf que ses futurs revenus supplémentaires n'ont pas été intégrés lors des discussions sur les conditions d'attribution de la concession. La situation du président d'Atosca pose également question. Lorsqu'il était fonctionnaire, avant de rejoindre la société concessionnaire, il a signé un document concernant la déviation de Soile qui sera des années plus tard intégrée à l'autoroute qu'il va donc devoir gérer. Le collectif La Voie est libre vient d'effectuer un signalement au parquet national financier. De son côté, Atosca conteste la moindre irrégularité.
Et cette enquête très fouillée de la cellule d'investigation de Radio France, vous la retrouvez sur francebleu.fr.
C'est l'info de la nuit, des explosions en Iran.
Et la grande question qu'on se pose ce matin, est-ce une riposte d'Israël moins d'une semaine après l'attaque de Téhéran? Que sait-on à l'heure qu'il est à Gérard Mohamed? Vous êtes en Israël pour France Bleu.
D'après les agences de presse officielles du pays, l'Iran a activé cette nuit sa défense aérienne dans plusieurs provinces. Les télévisions iraniennes elles, signalent plusieurs explosions, entendues au moins trois, notamment dans le secteur d'Ispahan, la grande ville au centre du pays où se trouvent des installations nucléaires, installations qui n'auraient pas été touchées. Plusieurs drones, en revanche, auraient été abattus, mais aucun missile envoyé, ça aussi selon des médias iraniens. Du côté d'Israël, l'armée contactée évidemment très tôt ce matin par les journalistes, dit ne pas commenter ces événements pour l'instant. Officiellement, elle ne parle pas donc encore de riposte, pas de déclaration non plus du premier ministre Benjamin Netanyahou, alors que des sirènes d'alerte ont retenti dans le nord du pays où je me trouve actuellement, notamment dans la ville de Djish qui est à quelques kilomètres, elle aussi, de la frontière avec le Liban, une localité régulièrement ciblée par des tirs de roquettes d'Hezbollah libanais alliés de l'Iran.
Et il y a clairement une bataille de communication qui s'engage ce matin puisque Téhéran dit à l'instant qu'il n'y a aucune information faisant état d'une attaque de l'étranger, contrairement aux rumeurs et aux affirmations faites par des médias israéliens.
Un cycliste tué sur la route hier entre Saint-Lys et Saïssa.
Ouais, cet homme de 60 ans a été percuté par une voiture dans l'après-midi sur cette portion avec de grandes lignes droites, une route très fréquentée. L'homme n'a pas pu être réanimé par les pompiers. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Le conducteur de la voiture a été interrogé par les gendarmes. Une enquête est ouverte. En tout cas, c'est le deuxième accident mortel avec un cycliste en Haute-Garonne en moins d'une semaine. Samedi dernier, un homme est mort près de Saint-Sulpice-sur-Lèze, percuté par un conducteur qui a pris la fuite avant d'être arrêté. Dans le Tarn, de nouvelles fouilles hier dans l'affaire Jubilard, dans le secteur de Cagnac-les-Mines où la mère de famille a disparu fin 2020. Important dispositif déployé hier avec une centaine de gendarmes, mais a priori pas de découverte. Les juges d'instruction se sont également rendus sur place. Cette zone avait déjà été ratissée par les enquêteurs en 2021 et 2022.
Vous écoutez France Bleu Occitanie, il est 8h04. La réouverture de la ligne SNCF Montrégeau-Luchon prend un peu de retard.
Ouais, ça sera finalement dans un an, mai 2025, au lieu de fin 2024, comme prévu, chantier décalé pour des raisons de sécurité après des inondations. L'annonce a été faite hier soir lors d'une réunion publique à Lourbarousse. Sur place, tout a été nettoyé, la végétation enlevée, tout comme les anciens rails. Il ne reste plus qu'à poser les nouveaux. C'est la deuxième tranche de travaux. Écoutez Carole Delga, la présidente de la région Occitanie.
On va pouvoir prendre le train, recommencer à partir de Toulouse, arriver donc jusqu'à Luchon, que ce soit aussi bien pour des randonnées, que ce soit aussi bien pour le ski, que ce soit aussi pour le thermalisme. Les premiers mois, nous allons tester la nouvelle voie Montrégeau-Luchon avec des trains classiques, mais nous allons après, dès la fin de l'année 2025, tester les premiers trains à hydrogène français qui sont fabriqués chez Alstom donc à Tarbes. Et donc ça sera la démonstration que nous avons une vallée là dans les Pyrénées qui a l'objectif d'être zéro émission, puisque nous allons vraiment développer l'utilisation du train dans cette vallée où la ligne avait fermé suite aux inondations de 2013.
Et vous l'avez entendu, il y aura bien des trains à hydrogène, mais fin 2025 seulement, puisque l'ouverture de la ligne se fera d'abord avec des trains diesel pendant quelques mois.
Le rugby, mobilisation générale ce soir à Sapiac.
Ah oui, parce que Montauban reçoit Vannes à 19h30 pour la 27e journée de Pro D2, un match crucial pour l'USM qui est avant-dernier à 4 journées de la fin. 1500 billets ont déjà été vendus. On s'attend à un stade bien garni, peut-être plein ce soir avec le public qui va pousser derrière les verts et noirs. Et du côté du staff et des joueurs, on sait bien que ce match est crucial, Morgane Euclin-Refait.
Affronter le leader quand on est avant-dernier, sur le papier, ça ne présage rien de bon. Mais le troisième ligne, Kylian Ringuet, veut capitaliser sur la victoire de la semaine dernière contre Nevers. Un tournant après 7 défaites de suite.
Ça va être forcément un match sous pression, mais après, on le prépare de la même manière que Nevers. Donc on est prêt, on va s'envoyer. C'est surtout dans l'état d'esprit, on a remis de la confiance. On reprend, disons, un cercle positif. Maintenant, on reste très concentré sur le match de Vannes. À nous de faire le job et de ne pas prendre Nevers comme la fin de la saison. Quoi.
La défense, notamment, devra tenir bon face à des Bretons offensifs, reconnaît le coach David Ocagne.
Ça va être compliqué, bien sûr. C'est une équipe qui vous enfonce au fond du terrain par des jeux au pied pour vous empêcher de sortir du camp. Enfin, c'est une équipe qui est vraiment bien équilibrée et qui va être dure à battre.
Le staff a donc misé sur la stabilité. Semaine de préparation identique à la précédente et à nouveau la présence de jeunes joueurs pour plus de fraîcheur.
Bien sûr qu'il faut s'appuyer dessus. C'est ce qui permet en général à une équipe d'évoluer. Il faut sauver ce club, donc tout le monde travaille pour et on s'acharne, on essaye de trouver des solutions, des choses en commun qui nous permettent d'avancer.
D'autant qu'après, il ne faudra rien lâcher non plus sur les 3 dernières journées de championnat, avec chaque fois un match coup près.
Et de son côté, Colomiers joue à Nevers ce soir. Là, c'est le haut de tableau avec les Colomérins qui veulent accrocher les phases finales, accrocher la 6e place. Agen, de son côté, se déplace à Valence-Roman. Là aussi, c'est à 19h30. Hier soir, le Provence Rugby a pris un peu plus large en tête de championnat. Victoire sur Mont-de-Marsan, 46 à 22.